Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Parfait. Je vous invite à prier pour débuter ce moment d'étude de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres, Seigneur, mais tu es venu toi-même, tu t'es donné. Et ensuite, Seigneur, tu nous as envoyé ton esprit, Seigneur, pour nous diriger. Tu nous as donné ta parole, Seigneur, pour que nous puissions savoir quelle est ta volonté pour nos vies. Merci pour chaque chose que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous humilier pour que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole, Seigneur, cette vérité, pour que nous puissions la faire nôtre et la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux pour nous. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons des savants, Seigneur, mais tu veux que cette parole que tu plantes dans nos cœurs nous rende meilleurs. Et c'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. Nous voulons nous mettre à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, ce matin, nous allons lire un passage dans l'épître aux Éphésiens. C'est une épître que j'aime bien. Et nous allons aller dans le chapitre 6, du verset 10 au verset 17. Chapitre 6, 10 à 17. C'est un passage qui est pas mal connu. Et nous allons nous imprégner de la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10 à 17 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Nous vivons dans un monde troublé. Alors vous allez me dire, le monde il est troublé depuis beaucoup de temps. Et même avant, historiquement, quand on remonte dans le temps, on se rend compte que l'histoire de l'humanité a été parsemée de guerres, de batailles, de combats, de massacres. Et on se demande toujours pourquoi, dans le cœur de l'homme, il y a autant de soif, de vengeance, de pouvoir. Et on se pose la question même aujourd'hui, sachant que de nos jours, le monde apparemment s'est policé, hein, et on n'a plus les mêmes barbaries, paraît-il, que ce qui existait dans l'ancien temps, dans l'Antiquité. Et pourtant, quand on regarde et qu'on approfondit notre lecture du monde actuel, eh bien on se rend compte que cette barbarie existe toujours, et qu'elle est toujours présente dans le cœur de l'homme. Alors vous me direz, ce qui s'est passé dans l'Antiquité, ça fait peur, mais on n'était pas là. Mais ce qui se passe dans notre monde actuel est tout aussi éprouvant, et là par contre on est là, et on se dit, est-ce que ça va un jour ou l'autre m'atteindre, moi personnellement? Alors on se cache toujours derrière le fait que nous habitons dans un pays libre, un pays européen où les guerres et tout ce genre de problèmes semblent ne pas atteindre. Mais qui sait ce qui peut se passer dans la suite des temps? Et la Bible nous brosse quelque chose de beaucoup plus noir que ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer bientôt, ou dans quelques années, ou dans quelques siècles, n'est pas forcément de notre goût. Pour revenir un petit peu sur notre lecture, l'Épître aux Éphésiens, et pour replacer un peu ce passage dans son contexte, la lettre aux Éphésiens est une des lettres de Paul les plus impersonnelles, je dirais, écrite par l'apôtre. En effet, il n'est même pas certain qu'elle soit destinée uniquement aux Éphésiens. Il est possible que Paul l'ait envoyée et qu'elle soit destinée à ce moment-là, aux Éphésiens peut-être, mais aussi aux églises de Laodicée, etc. Et Paul écrit du fond de sa prison à Rome, à ce moment-là, et il expose dans cet épître les vérités, il est vrai, essentielles au sujet d'Église, sans toutefois parler de son organisation. Dans d'autres épîtres, il rentre plus en profondeur dans ce qui est pratique dans la tenue et dans la marche de l'Église, mais là, il nous brosse plutôt des vérités spirituelles, bien entendu. Après avoir montré la position élevée que le chrétien occupe par grâce et la réalité du corps de Christ dans cet épître, Paul veut nous faire également comprendre que notre vie chrétienne doit être vécue en conformité avec notre vocation et notre position en Christ. Mais évidemment, cela n'est possible que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. On peut s'évertuer à vivre une vie chrétienne sainte, d'obéissance, mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, et si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu tous les jours, eh bien nous aurons beaucoup de difficultés à vivre ce type de vie. Tôt ou tard, nous allons chuter. Et le fait de vivre une vie sainte génère, évidemment, invariablement, des attaques de la part de Satan, qui veut nous faire chuter. Ça, on connaît. Plus on veut faire le bien, et plus le mal est attaché à nous. C'est ce que disait Paul, en tout cas. 2 Timothée 3,12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, armons-nous de patience, parce que si nous voulons vivre une vie sainte, forcément, nous allons avoir des retours de bâton, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. 1 Pierre 5,8 à 9 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vivre donc pieusement en Jésus-Christ va donc nous plonger, bien malgré nous d'ailleurs, puisqu'on n'a rien demandé à ce sujet-là, ça va nous plonger dans un combat acharné avec les forces du mal. Il dit, mince, qu'est-ce que je fais là? Quand je me suis converti, on ne m'avait pas dit tout ça. On m'avait dit que c'était merveilleux la vie en Jésus-Christ, que tout allait bien se passer et que ça serait une vie de rêve. Évidemment, on nous avait brossé quelques tableaux un peu plus noirs en nous disant, mais attention, Dieu n'enlève pas toutes les épreuves et par contre, il nous permet de les surmonter. Heureusement qu'on nous avait dit ça, sinon on serait vraiment très étonné maintenant parce que une fois qu'on rentre réellement dans la vie chrétienne, on se rend compte que là commencent les problèmes. Et on se rend compte même que certaines fois, quand on se convertit, on a plus de problèmes que ce qu'on avait avant de se convertir. Mais évidemment, c'est un prix à payer parce que notre vie sur terre n'est qu'une courte période de notre vie éternelle. Et ce qui va se passer plus tard, c'est là que nous allons recueillir les fruits de ce que nous avons vécu sur terre. Nous allons donc ce matin diviser notre passage en deux grandes parties, si vous le voulez bien. J'ai intitulé la première partie « La nature du combat et les desseins de l'ennemi » et la seconde partie, évidemment, qui est beaucoup plus connue encore, « Les armes spirituelles mises à notre disposition pour combattre ». Ok ? Bien. Alors, la première partie, donc du verset 10 au verset 13, on va le relire, du verset 10 au verset 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La nature du combat que nous avons à mener est spirituelle. Ça, c'est une évidence. Et nous ne devons pas être présomptueux. Pourquoi ? Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas capables de mener ce combat par nos propres forces. Nous avons besoin d'être fortifiés par notre Seigneur et par sa force toute puissante, comme il nous est dit dans le passage. Si nous avons besoin de la puissance de Dieu, eh bien, évidemment, cela suggère quelque chose. Ça suggère le fait que notre adversaire est puissant lui aussi. Et beaucoup plus que nous, je dirais. Dans Marc 14, 38, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et nous en sommes tous conscients, n'est-ce pas ? Partir au combat par nos propres forces serait, je dirais, une folie. Et elle serait évidemment vouée à l'échec. Mais vous allez me dire, la victoire finale, si je ne me trompe, sur Satan a déjà été remportée, et par Jésus-Christ à la croix. Et ce qui ressemblait à une défaite était en fait la plus grande victoire de notre Seigneur sur la puissance du péché et de la mort. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi avons-nous encore besoin de combattre, puisque la victoire est déjà acquise ? La victoire spirituelle, en effet, est déjà acquise. Mais notre vie sur terre est marquée par des batailles incessantes, en attendant que nous soyons réunis avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes. À ce moment-là, nous serons débarrassés effectivement du péché qui nous enveloppe si facilement et nous serons semblables à lui. Mais en attendant, il faut s'armer de patience. Le verset 10, je trouve, a deux implications, c'est-à-dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. La première implication, c'est que nous avons besoin de nous fortifier. Car notre adversaire, comme nous l'avons dit, est bien plus fort que nous. C'est le côté négatif qui nous pousse, la plupart du temps, à avoir peur de la confrontation inévitable avec Satan. Moi, je n'ai pas envie d'aller me battre contre Satan. Je ne sais pas vous. En tout cas, si je peux l'éviter, je n'hésite pas une seule seconde. La deuxième implication, c'est que nous avons à notre disposition la force du Seigneur. Et qui plus est, elle est toute puissante. Ouf. Donc, quelles que soient les situations et les combats que nous avons à mener, nous savons que par la force de Dieu, eh bien, nous pouvons vaincre. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus puissante que celle de notre adversaire. Si nous faisons appel à Dieu, alors il nous donnera la victoire. Éphésiens 1, 19 à 21 nous dit. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Heureusement que nous avons à notre disposition cette force toute puissante. Le verset 11 nous donne une indication plus précise sur la nature du combat qui nous oppose à notre ennemi. En effet, dans un conflit armé, il y a toujours un agresseur et un agressé. C'est une logique imparable. On peut également diviser ce verset, il me semble, en deux parties. La première partie nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu mises à notre disposition, que nous allons détailler tout à l'heure d'ailleurs. Il nous est bien demandé de revêtir toutes, et pas seulement quelques-unes. En effet, au combat, un combattant a besoin de tout son attirail pour pouvoir combattre efficacement. Et nous avons besoin d'être outillé pour notre combat contre les forces des ténèbres. La deuxième partie du verset nous donne la teneur du combat lui-même. C'est un combat défensif. Satan est l'agresseur et il utilisera toutes sortes de ruses ou manœuvres, car il ne suit, lui, aucune règle, et il agit sans justice ni loyauté. Alors, dans notre combat, pour faire une analogie, eh bien, pas de convention de Genève pour nous. Nous devons nous attendre à toutes sortes de coups bas. Et je vous livre une information, Satan achève les blessés. Donc, il faut tenir ferme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans notre combat, nous ne devons pas nous tromper non plus d'ennemis. C'est pour cela que Dieu nous dit que l'ennemi n'est pas fait de chair et de sang. Les inconvertis, même s'ils nous dénigrent, même s'ils nous persécutent même, ne sont pas nos ennemis. Il est évident qu'ils peuvent être manipulés par Satan pour nous faire du tort, mais ce sont bien les forces démoniaques que Paul identifie comme étant nos ennemis véritables. L'énumération des différentes sortes d'ennemis, d'ailleurs, suggère la hiérarchie démoniaque qui constitue le royaume des ténèbres de Satan, sur terre et dans les cieux d'ailleurs. Notre combat n'est donc pas dirigé contre des hommes. Évidemment, nous haïssons le péché, mais nous aimons le pécheur. Ce qui d'ailleurs ne peut être pratiqué que dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'histoire sur justement ce genre de choses. Haïr le péché, oui. Aimer le pécheur, aimer ceux qui vous persécutent, c'est ce que nous dit Paul, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Alors là, on passe sur un autre registre. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui nous persécutent. Et certains l'ont vécu et l'ont mis en pratique. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous rendre capables de ce genre de choses. C'est quelque chose de complètement absent de l'esprit humain. Si on vous donne une claque, on n'est pas enclin à tendre l'autre joue. Et si on le croit, on se trompe nous-mêmes. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous rendre capables d'aimer nos ennemis à un tel point. Notre rôle peut être comparé à celui d'un pompier. En effet, le pompier, il ne construit pas de maison. Il a seulement un rôle défensif. Il doit seulement préserver les maisons existantes. On est bien d'accord. Il doit, et même lorsque le pompier fait face à un feu qu'il ne peut pas éteindre, ce qui arrive de temps en temps quand le feu est trop étendu, eh bien son but principal sera d'essayer de sortir les personnes hors du brasier afin de préserver leur vie. Alors nous sommes des pompiers du Seigneur. Notre monde est un monde de flammes. Et nous devons essayer d'attirer les pécheurs hors de ce feu dévorant par la bonne nouvelle de l'Évangile et aussi par l'exemple de nos vies sanctifiées. Parce que si nous voulons propager l'Évangile et que nous ne la vivons pas, eh bien, ça va donner un effet complètement inverse. Donc pour résumer cette première partie, nous pouvons dire que le combat que nous avons à mener est donc spirituel. Et nous ne sommes pas capables de nous battre par nous-mêmes. Nous avons besoin de la force toute-puissante de Dieu pour tenir ferme. Notre ennemi est Satan, et non pas les hommes inconvertis. Nous devons haïr le péché et aimer le pécheur en lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un bon résumé. La seconde partie de notre passage va nous permettre de revêtir toutes les armes de Dieu mises à notre disposition pour combattre. Alors tout d'abord, pour introduire cette deuxième partie, il nous est rappelé encore une fois que nous devons revêtir toutes les armes, et pas seulement quelques-unes, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. En effet, notre but est de résister aux attaques de Satan, et nous ne pourrons le faire que si nous avons à notre disposition toutes les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un point faible dans notre stratégie de défense. Vous voyez, j'utilise vraiment les termes militaires. Mais nous sommes vraiment des militaires du Seigneur. Satan, en effet, saura immédiatement en profiter de nos faiblesses, je m'entends, pour nous atteindre. Paul nous parle du jour mauvais ou du mauvais jour. Nous avons là aussi, dans ce terme, un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que les attaques de Satan sont limitées dans le temps. C'est le jour mauvais. Dieu ne permettra pas d'épreuves supérieures à nos forces. Vous connaissez le passage d'1 Corinthiens 10, 13 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. » Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il nous connaît, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Il connaît nos faiblesses, il connaît aussi jusqu'où il peut aller dans l'épreuve. Son but n'est pas de nous faire du mal, mais du bien. Et les épreuves sont destinées à nous faire croître, pas nous faire chuter. Le côté négatif de ce passage, c'est que le jour est certain d'arriver. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, être exemptés du combat. Ça, c'est un fait accompli. C'est un peu négatif parce que nous sommes certains à ce moment-là que, tôt ou tard, nous aurons des épreuves plus ou moins difficiles à surmonter. 1 Pierre 4, 12 à 14 nous dit Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ce passage ne veut pas dire que nous devons rechercher les épreuves. Nous ne sommes pas des masochistes. Hein ? Si le Seigneur croit bon de nous donner des temps de relâche, de tranquillité et de paix, tant mieux. Mais il y a toujours des combats que nous aurons amenés à mener. Il est temps d'étudier plus en détail cette fois, les armes mises à notre disposition par Dieu pour nous permettre de combattre victorieusement. Parce que le but, c'est la victoire. C'est pas seulement de combattre. Paul débute l'énumération de ses armes par un troisième « Tenez donc ferme ». Preuve de l'âpreté du combat qui nous attend. C'est pas un petit combat. C'est un combat d'une vie. Et Paul utilise l'analogie du paquetage du soldat romain afin de nous équiper pour le combat. La première mention, c'est la ceinture du soldat, et que Paul lit avec la vérité. La ceinture, vous allez me dire, ça n'a pas l'air d'être une arme, ça. Eh bien, si. En tout cas, elle permet d'utiliser les autres. Le soldat romain portait une tunique large, très large d'ailleurs, qui pouvait le gêner pendant le combat, qui se déroulait la plupart du temps au corps à corps d'ailleurs. À ce moment-là, il ne cherchait pas midi à 14h, il s'empoignait et puis ça se terminait souvent très mal. La ceinture avait donc pour rôle de maintenir ainsi tout ce qu'il avait, c'est-à-dire sa tunique, elle plaquait au corps, et en même temps, ça lui permettait d'accrocher les autres armes. Ça maintenait d'ailleurs toute l'armure ensemble. On mettait l'armure et puis après, avec la ceinture, on serrait tout et on était quand même beaucoup plus solidaires. Pourquoi la ceinture de la vérité ? Dans ce passage d'ailleurs, ça peut être traduit avantageusement par sincérité même. Éphésiens 4, 25 nous dit C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La vérité, c'est notre ceinture. Éloignons-nous du mensonge. Tout ce qui nous gêne dans le combat doit être abandonné. Et ce qui nous permettra de combattre sans hypocrisie, dans la maîtrise de soi, jusqu'à la victoire. Si nous n'avons pas la vérité pour ceinture, nous ne pourrons même pas combattre, puisque Satan va nous défaire immédiatement. La seconde arme que le Seigneur met à notre disposition est la cuirasse. Alors là, vous me direz, là c'est plus intéressant, parce que ça va vraiment me protéger. La cuirasse de la justice. La cuirasse du soldat romain n'a rien à voir avec celle que vous voyez dans les films à la télévision, les péplums, là, hein, toutes rutilantes avec, vous savez, là, en fer la plupart du temps, hein, poli, et dans le soleil, c'est magnifique. C'était pas du tout ça. Ce n'était la plupart du temps qu'un gilet en cuir, assez épais malgré tout, sans manches, sur lequel on cousait des morceaux de sabots ou de cornes animales. C'était moins cher certainement, mais ça protégeait malgré tout, hein, ça protégeait le cœur et les organes vitaux du soldat. Pour le croyant qui marche humblement avec son Dieu, dans l'obéissance et la communion avec Jésus-Christ, Dieu produit en lui un fruit paisible de justice qui devient sa cuirasse. En revanche, un manque de sainteté le rend vulnérable aux attaques de Satan. J'ai lu dans un commentaire une phrase qui m'a beaucoup frappé, et je vous la livre. « La vie que nous vivons soit nous fortifie contre les attaques de Satan, soit lui rend la tâche plus facile pour nous vaincre. » Effectivement, selon ce que nous vivons, eh bien nous pourrons résister ou non. Si Jésus-Christ ne nous donne pas cette justice, nous n'aurons pas de cuirasse et nous serons réellement vulnérables. La troisième arme, entre guillemets, le pactage du soldat, c'est les chaussures. Et il nous est dit dans le passage, mettez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, toujours par analogie avec le pactage du combattant romain, les bottes que portaient les soldats, s'appelaient des cothurnes, entre guillemets, étaient munies de clous pour ne pas glisser pendant la bataille. C'est cool, ça. Elles protégeaient aussi leurs pieds, bien entendu. Pouvez-vous penser, en tant que soldat, à combattre pieds nus? Bien sûr que non, enfin j'espère pour vous. Sinon, vous aurez peur de vous blesser les pieds, ou qu'on vous blesse, ou de marcher sur quelque chose qui vous blesserait et qui vous handicaperait pour le combat, évidemment. En tant que croyant, l'évangile de paix que nous avons reçu et auquel nous avons répondu en nous convertissant au Dieu vivant, nous a apporté la paix avec Dieu. Et nous en avons déjà parlé dimanche dernier, donc nous n'allons pas remettre ça, mais sachez que, n'étant plus sous la condamnation, notre esprit est libéré et nous pouvons nous consacrer pleinement à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. C'est ce nouveau zèle qui nous aide à marcher en nouveauté de vie, en suivant les traces de Jésus-Christ. Le zèle que donne l'évangile de paix. Cet évangile nous a sauvés en premier à nous. Mais maintenant que nous avons le zèle pour Dieu, eh bien c'est l'évangile que nous allons délivrer à ceux qui nous entourent, qui va à leur tour leur permettre d'accéder au salut. Ce n'est pas nous qui allons les convertir. Et c'est tant mieux. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais le Seigneur nous a choisis pour être ses témoins. Et pour cela, nous devons pouvoir résister dans le combat contre Satan qui ne veut pas que nous soyons des témoins. Dans notre panoplie, le bouclier de la foi. Le bouclier, selon la plupart des commentaires qu'on a regardés, mesure environ allez, 1,20 m sur 75 cm de large, à peu près. Il était recouvert de lin et de cuir, avec des bords qui lui permettaient de s'imbriquer avec les autres boucliers. Ainsi, les soldats pouvaient imbriquer leurs boucliers et marcher vers l'ennemi en formant un mur solide qui les protégeait. Ça, par contre, dans les péplums, vous le voyez. Hein, vous voyez des cocottes, vous voyez des tortues, etc. Hein, alors, ils en mettent devant, sur les côtés, derrière, et même sur le dessus, éventuellement, au cas où. Hein, parce que vous savez qu'à ce moment-là, on décochait des flèches, et puis ça, pop, ça passait par-dessus les boucliers. Et donc, les Romains, qui étaient prévoyants, mettaient une carapace presque infranchissable. Ça leur permettait d'avancer, de s'approcher, évidemment, de leurs ennemis, pour ensuite les combattre au corps à corps. Les ennemis, eux, ils en avaient pris plein la figure, parce qu'eux, ils n'avaient pas cette carapace, bien entendu, et donc ils arrivaient au combat déjà moitié vaincus. Et les soldats n'avaient qu'à terminer le travail. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les Romains savaient travailler. Pour les chrétiens ou le chrétien, la foi inébranlable dans la parole de Dieu et ses promesses, lui, sont indispensables pour être protégé des tentatives de toutes sortes. Des tentations, pardon, pas des tentatives. C'est d'ailleurs, et j'ai bien aimé cette image, une belle image de voir les chrétiens d'une église se soutenant les uns les autres en unissant leurs boucliers, c'est-à-dire leur foi, pour progresser ensemble vers la sanctification. C'est une belle image. Ce n'est plus un soldat isolé, mais c'est un régiment qui avance. Et en plus, avec un mur hermétique qui protège. La foi dans notre Dieu nous protège. Et plus notre foi est grande, plus notre protection est grande, et plus nous pouvons aller loin et avancer pour notre Seigneur. Ce bouclier nous permet d'éviter les traits enflammés du malin. Alors les tentations sont assimilées à ces traits, traits, flèches, hein, on est bien d'accord, c'est pareil. Décochées par l'ennemi, qui d'ailleurs s'éteignent lorsqu'elles se plantent dans les boucliers du Romain. Pourquoi ? Parce que le bouclier était traité et était nifugé. En quelque sorte. Il le traitait avec une huile spéciale qui le prémunissait contre le feu. Donc ils avaient pensé à tout, ces Romains. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Le trait enflammé du malin, si nous avons notre bouclier bien en place de la foi, eh bien, quand le trait nous atteint, il se plante dans le bouclier, il s'éteint. Amen. Le casque protégeait la tête du soldat. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. C'était la cible privilégiée dans le combat, forcément. Soyons certains que Satan, par ses attaques et par ses ruses, va essayer de détruire l'assurance que nous avons de notre salut. Il va s'attaquer personnellement à cela. Même si nous recherchons sincèrement la sanctification, nous ne pouvons pas être totalement exempts de péché. Sinon, nous nous mentons nous-mêmes également, comme le dit Jean. Satan utilisera notre faiblesse humaine pour nous décourager et pour insinuer le doute dans notre esprit. Il va nous dire ce genre de choses que vous avez certainement entendu certaines fois. Vois ce que tu as fait. Tu n'es pas un bon chrétien. Dieu ne peut pas t'aimer puisque tu pèches, etc., etc. Heureusement, la parole de Dieu est toujours là pour nous montrer la vérité de Dieu. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu sait que nous sommes faits de chair. Dieu sait que nous sommes enclins au péché. Dieu sait que même si nous lui appartenons, il y aura des moments où nous allons tomber. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous relevions, c'est que nous demandions pardon et que nous soyons purifiés. Quelqu'un de purifié peut continuer à marcher, puisque Dieu oublie nos péchés. Il ne se contente pas de les couvrir comme avant. Il les oublie complètement. Il les oublie parce que Jésus a payé le prix et que nous sommes sous le sens de Jésus. Il y a une dernière arme que nous n'avons pas encore vue et qui est la seule d'ailleurs qui peut être offensive ou défensive. C'est l'épée de l'esprit. D'ailleurs, le soldat romain n'avait pour arme que cette épée, à part peut-être les pilons qu'ils avaient pour certains, mais c'était une épée courte, mais très courte, maximum 70 cm, à deux tranchants et très maniable comparée aux autres armes de cette époque. Le Romain avait compris que, comme à ce moment-là on combattait au corps à corps, ben une épée de 2,50 m, ça ne servait pas grand-chose. Comme dans les combats de chevaliers, où ils ont même du mal à les lever, tellement qu'elles sont pesantes. Cela lui permettait de prendre le dessus, en effet, sur ses adversaires dans le corps à corps. La parole de Dieu est la seule arme que nous possédons et dont nous avons besoin pour repousser les attaques de l'ennemi. Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, l'a utilisée, souvenez-vous, lors de la tentation au désert. C'est la vérité des Écritures. Satan ne peut rien contre la vérité des Écritures. Si nous nous plongeons dans la parole de Dieu, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous faisons notre délice de la parole de Dieu tous les jours, Satan ne pourra rien contre nous parce que nous aurons cette épée de l'esprit toujours présente pour nous protéger et même pour contrecarrer ses attaques. C'est le seul moment où nous pourrons même attaquer à la limite. Nous avons vu que le combat était essentiellement défensif, mais certaines fois nous avons besoin d'attaquer Satan sur son terrain même, comme Jésus l'a fait. Satan avait utilisé la parole de Dieu pour essayer de déstabiliser notre Seigneur. Le Seigneur a rectifié, bien entendu, en utilisant lui-même la parole de Dieu également, mais pas des morceaux mal utilisés. La vérité de la parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous permettra de tenir ferme dans le mauvais jour. Alors, chers frères et sœurs, le combat que nous avons à mener, donc, spirituel. Et nous ne sommes pas capables de nous battre par nos propres forces. Ça, nous en sommes tous maintenant convaincus. Nous avons besoin de la force toute puissante de notre Seigneur pour tenir ferme. Ça a d'ailleurs un avantage, c'est que nous ne pourrons nous glorifier de rien. Et ça nous permettra de rester dans l'humilité, puisque c'est le Seigneur qui combattra pour nous, en quelque sorte. La seule chose qu'il veut, c'est que nous soyons sur le champ de bataille. Ne nous trompons pas d'ennemis non plus, mes bien-aimés. C'est Satan que nous devons combattre, et non pas des hommes inconvertis qui nous entourent. Au contraire, nous devons leur parler de l'évangile de paix, pour en emmener quelques-uns au salut. Pour tenir ferme dans la bataille, avez-vous revêtu toutes les armes de Dieu, ou seulement quelques-unes, ou peut-être pas du tout ? Mais sachez dans ce cas-là que vous êtes en grand danger parce que le combat fait rage et personne n'est exempt du combat. Si il n'y a pas de combat dans votre vie, je vous invite à vous poser quelques questions. Ça veut dire dans ce cas-là que vous ne gênez pas du tout votre ennemi puisqu'il ne vous attaque pas. Avez-vous mis votre ceinture de vérité ainsi que vos chaussures zélées pour Dieu ? Êtes-vous protégé par la cuirasse de la justice ? Le bouclier de votre foi arrête-t-il les traits enflammés du malin ou êtes-vous toujours assailli, blessé ? Le casque du salut protège-t-il votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ ? Et enfin, utilisez-vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu afin de vous défendre et afin d'attaquer ? Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Afin de tenir ferme dans le mauvais jour, nous devons donc revêtir la totalité des armes de Dieu. Alors avant de partir au combat, assurons-nous que nous sommes bien harnachés. Parce que le combat est difficile. Et nous aurons du mal à combattre. La vie chrétienne, ce n'est pas une sinécure, comme on dit. La vie chrétienne est un combat constant contre notre propre chair. Mais sachez, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que Jésus-Christ a remporté la victoire finale. Nous marchons vers lui. Nous recherchons la sanctification, bien sûr. Tant mieux, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Et quand nous le verrons, face à face, à ce moment-là, nous serons comme lui. Et nous serons débarrassés de tout péché, de toute anxiété, de tout combat. Nous serons dans la joie éternelle. Mais pour l'instant, nous sommes sur terre et nous avons besoin de marcher fidèlement. Car nous ne sommes pas seuls. Et le Seigneur ne nous abandonne pas. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas nous relâcher dans le combat. Nous savons que la bataille est difficile, Seigneur, mais nous avons l'assurance, Seigneur, que tu as gagné déjà la victoire pour nous. Et nous voulons, Seigneur, marcher maintenant comme un soldat de Christ pour parler de toi, Seigneur, parler de ta bonne nouvelle, Seigneur, pour que le plus grand nombre puisse te connaître, t'aimer et te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas être des serviteurs inutiles, Seigneur. Nous voulons vraiment te glorifier dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci pour les armes que tu mets à notre disposition. Tu ne nous laisses jamais seuls, Seigneur. Et tu nous protèges toi-même par ta droite triomphante. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.